L'étoile. Dans la vaste et morne maison d'Ajaccio, qu'habitait en 1779 Madame Buonaparte, on avait été obligé de démeubler une grande chambre afin que les enfants pussent, aux heures de récréation, les jours de mauvais temps, donner libre cours à leur turbulence. Joseph y organisait, avec les vieilles robes de la signora Madre, des lits aux poupées d'Elisa. Lucien, qui avait 4 ans, se traînait sur le tapis pour faire le lion et amuser son petit frère Louis, encore bambin. Quant à Napoléon, quand il s'était bien bourré de confiture, il dessinait des pantins sur le mur. C'étaient toujours des soldats rangés en bataille et alignés à miracle. Il n'était pas coquet et sortait dans les rues tout ébouriffé, les bas tombés sur ses gros souliers, en raison de quoi les gamins l'appelaient « la mi-chaussette ». Monsieur et Madame Buonaparte étaient riches à la façon de ce pays et de cette époque, c'est-à-dire qu'ils avaient une maison de ville et 500 ou 600 livres de rente, représentés par un jardin planté d'oliviers, situé au 1000 lélis, sur une hauteur près de la ville. Une servante alors se payait un petit écu par mois, et Madame Buonaparte en avait 2, Caterina et Severia, sans compter la nourrice Hilary. Et c'est ainsi que Laetitia Ramolino, qui s'était mariée sans dot, à 13 ans, avec Charles Buonaparte qui en avait 15, et qui ne possédait pour toute fortune qu'un titre d'avocat assez peu lucratif dans un pays où les différences se vident à coups d'escopette, c'est ainsi que le ménage, d'où naquirent 13 enfants, dont 8 vécurent, parvenait à faire bonne figure et à tenir avec ses 500 francs de revenus un rang distingué dans la bourgeoisie riche d'Ajaccio. Or, en cette année 1779, la veille de Noël, un paysan de la montagne, qui était le cousin d'Hilary, apporta pour les enfants de Madame Buonaparte une belle crèche à laquelle il travaillait, en gardant ses chèvres, depuis bien des mois. La Vierge Marie, Saint Joseph et l'enfant Jésus étaient de belles statuettes d'os blanc. Les 3 rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar, en leur qualité d'Éthiopiens, était, comme il convient, sculpté dans du vieux buis couleur de bois de réglisse. Il portait sur la tête de mirifiques couronnes dorées, énormes, où les cailloux et les morceaux de verre incrustés faisaient un ruissellement de pierreries. L'ange qui veillait sur le sommeil de l'enfant Dieu était en bois odorant de violette. L'âne était d'érable gris et la vache en pin rouge de Corté, où la sève étendait, pour plus de vraisemblance, de grandes taches brunes. Une resplendissante étoile, découpée dans une feuille de cuivre, étincelait parmi les brindilles et la mousse, au faîte de la grotte où s'abritaient les saints personnages. Quand le soir, tout fut endormi dans la maison, Madame Buonaparte, pieds nus, afin de ne pas faire de bruit, entra dans la pièce où dormaient ses enfants. Elle disposa sur la commode la belle crèche avec tous ses accessoires, jeta un coup d'œil au petit lit de Joseph, de Napoléon, de Lucien et de Louis, traversa le cabinet voisin où couchaient Elisa et la bonne Severia, et rentra dans sa chambre, toute heureuse de la surprise que la maisonnée aurait à son réveil. Ce fut en effet d'abord un étonnement admiratif, puis, la prière faite, non sans de furtifs regards décochés à la merveille qui encombrait de ses splendeurs le marbre de la commode, on s'approcha. À l'exception du petit Louis, les gamins avaient déjà l'air réfléchi et grave. Ils admirèrent tous les détails de la crèche et les discutèrent longuement. Puis quand on l'eut bien retourné et qu'on en eut un à un étudié les personnages, on obtint de la transférer solennellement dans la chambre aux jouets. Et ce fut Joseph qui se chargea du transport. Et toute la journée, la maison résonna de cris de joie, entremêlés de Noël en patois corse, et de cantiques appris au catéchisme, et de grandes disputes qui finissaient toujours par des dégringolades dans l'escalier et des courses échevelées sur toute la longueur du couloir qui traversait la maison. Vers le soir, tout à coup, un silence profond succéda à ce tumulte. La chose était si insolite que Madame Buonaparte en fut presque inquiète. Elle vint sans bruit jusqu'au palier de la chambre et, n'entendant rien, poussa la porte. Lasse d'admirer la crèche, les enfants n'avaient pu résister au désir de la toucher, ensuite à l'envie de la démolir un peu. Les figures de Gaspard, de Melchior et de Balthazar excitaient surtout leur curiosité. Ils les avaient détachées de leur socle, puis à force de les tourner et retourner, ils étaient parvenus à dévisser les lourdes couronnes rutilantes d'or et de pierreries, et se les étant partagées et posées sur la tête, ils jouaient au roi mage. Quant à Napoléon, qui avait fait la distribution, il s'était attribué la belle comète, toute resplendissante, et la tenant au bout d'une règle, il remplissait le rôle d'étoile miraculeuse et guidait solennellement à travers la chambre ses frères couronnés. À l'aspect de la signora madre, le cortège s'arrêta un peu penaud. Les trois rois et leurs guides eurent l'impression qu'ils avaient commis quelque chose d'énorme. Et de fait, sans mot dire, avec l'air sévère qu'elle savait affecter et qui faisait si peur, la mère prit les couronnes et l'étoile, confisqua la crèche qui fut mise sous clé dans une grande armoire et envoya les quatre gamins se coucher, après leur avoir taillé à chacun un gros morceau de pain qui fut tout leur souper de Noël. Cet incident n'étonnerait guère dans la vie de ces quatre enfants qui devaient être mêlés à quelques événements plus importants, si 56 ans plus tard, il n'avait eu son contre-coup dans la vieillesse de Madame Mère. Tel est le nom sous lequel vivra immortellement dans l'histoire la femme qui mit au monde Napoléon. En 1835, elle demeurait depuis 19 ans à Rome, dans ce silencieux palais Falconière, rue Tullia, à l'angle du Corso et de la place de Venise. Depuis la mort de son petit, à Sainte-Hélène, elle n'avait pas quitté le deuil. Sur sa simple robe noire, elle avait pris l'habitude de porter chez elle, en hiver, un tablier de taffetas, noir également, qu'elle remplaçait en été par un tablier blanc. C'était un lointain souvenir de l'humble ménagère de la maison d'Ajaccio. Elle était presque aveugle et ne pouvait plus marcher. Elle se faisait promener dans son appartement sur un fauteuil à roulettes et parcourait ses salons par une vieille habitude de veiller à tout, se faisant rendre compte des moindres détails du ménage. Quand elle rentrait dans sa chambre, on l'étendait sur un canapé. Elle reprenait son fuseau, qu'elle maniait avec beaucoup d'adresse, et se faisait lire ou raconter les nouvelles du jour. Tout dans ce palais Falconière était austère, grave et triste. Les rares visiteurs, en pénétrant dans les antichambres, y trouvaient deux laquais impassibles, revêtus de la grande livrée impériale, vert et or. Les appartements étaient sombres et vastes, au plafond très élevé. D'épais rideaux, cachant en partie les fenêtres, ne laissaient pénétrer qu'un faible jour. Dans un premier salon, on rencontrait, étendu dans un fauteuil, le comte Colonna, chambellan de Madame Mère, toujours vêtu de noir, en culotte courte, en bas de soie, en souliers à boucles d'argent, l'épée au côté. Il sommeillait doucement, attendant que son service le réclamât. Madame, elle, vivait dans une pièce solennelle où elle recevait les étrangers. Sa figure était entièrement blanche, aucune rougeur ne colorait ses joues. On eût dit que son sang s'était tari. Ses yeux, quoique perdus, étaient noirs et brillants, et un sourire de bienveillance errait sur ses lèvres. Sa tête était coiffée d'une espèce de turban qui laissait à découvert un front très haut. Elle s'enveloppait souvent d'un grand manteau d'hermine qui la recouvrait tout entière. À côté d'elle se trouvait une petite table bien simple, bien fragile, sur laquelle, continuellement, elle laissait errer sa main. C'était cette table qu'il avait eue, jusqu'à la fin, près de son lit à Sainte-Hélène, et qu'en mourant, il avait léguée à sa vieille maman. Puis, quand elle avait, au visiteur, tendu sa main à baiser, elle commençait tout de suite à parler de lui. Elle appelait un vieux valet de chambre qui roulait sa chaise longue dans un salon voisin, décoré des portraits des rois, reines et princesses de la famille impériale en grand costume. Au milieu d'un panneau, à la place d'honneur, était le père de tous ses souverains, le petit avocat d'Ajaccio. Madame Mère s'asseyait à sa place accoutumée, sous le portrait de son mari, et tournait son visage vers lui. « Il était bel homme, disait-elle, il était grand comme Murat. » Puis, invinciblement, elle revenait à parler de son petit. « Oh, songeait-elle, il avait aussi une belle figure quand il était de bonne humeur. Mais quand il réfléchissait à sa grande affaire, il prenait une physionomie bien sérieuse. Alors je lui disais, « Mon enfant, je me fâcherai quand on me dira que tu me ressembles. » Cela le faisait rire, et il m'embrassait. Pauvre, il était si bon. La bonne Séveria, la fidèle gouvernante, qui depuis 60 ans n'avait pas quitté la signora madre, était toujours là. Madame causait avec elle en patois corse. Dans la chambre, derrière la chaise longue, était une grande armoire avec des ornements de cuivre. À part les planches qui garnissaient le haut, et sur lesquels étaient rangés divers paquets méthodiquement enveloppés, cette armoire était vide et était destinée à servir d'épouvantail aux enfants. Les enfants, c'étaient le fils et la fille de l'ancien roi de Westphalie, le prince Jérôme et la princesse Mathilde. Si l'un d'eux faisait du bruit ou troublait la conversation des parents, il était menacé de la prison dans la grande armoire de bonne maman. Et il se taisait aussitôt. Madame Mère, malgré sa cécité, aimait à ranger. Séveria lui apportait sur sa chaise longue les objets, souvenirs précieux ou simples bibelots, qu'elle désignait, et elle les développait, les tâtait, les caressait de la main, se rendait compte de leur état de propreté, puis elle les enveloppait elle-même et les remettait à la vieille gouvernante. Cette mère de tant de rois était restée la ménagère ordonnée et méticuleuse d'autrefois. Voilà à quoi elle s'occupait la veille de Noël en 1835. Elle avait entrepris une revue de ses armoires pour chercher ce qui, parmi les reliques de son passé, pourrait plaire aux enfants comme cadeau de Noël. Séveria venait de mettre entre ses mains un assez volumineux paquet, enveloppé de gros papiers anciens. Et madame l'avait ouvert. De ses vieux doigts si blancs et si maigres, elle cherchait à se rendre compte de la nature des objets qu'elle en avait sortis. Elle ne put y réussir sans le secours de Séveria. C'était une étoile de cuivre, toute ternie, et 3 grosses couronnes de bois, grossièrement dorées et peintes. Et les deux vieilles s'étonnaient de cette découverte inattendue quand tout à coup, la madre s'émut. « Oh, Séveria, dit-elle, je me souviens, comme c'est loin, mon Dieu, comme c'est loin !» Et courbant le front, elle songea silencieusement. « Tu ne te rappelles pas ? » ajouta-t-elle après quelques instants. « Là-bas, à Ajaccio, le jour où le cousin d'Hilary apporta cette crèche. Mes chers petits étaient-ils heureux ? Quel cri pendant toute la journée ! Et le soir, lui avait décroché l'étoile et distribué à ses frères les couronnes. Te rappelles-tu, Séveria? Te rappelles-tu? Quel présage! Et moi, obligée de me montrer sévère, je leur ai pris des mains leur étoile et leur couronne. Je n'y avais plus pensé. Je ne les avais pas revus depuis. Les voilà, tels qu'ils les ont touchés, il y a près de 70 ans. Et sur le visage impassible de l'impératrice mère, on vit se creuser 2 rides qui s'emplirent de larmes. Toute l'épopée, devant ces simples objets, repassait dans son esprit. Elle songeait à lui, mort loin d'elle, au présage qui, pendant toute sa vie, avait semblé le guider comme sur une route d'avance tracée par Dieu, au saule de Sainte-Hélène, foudroyée dans la nuit du 5 mai 1821, à la comète qui, dans le printemps de cette année fatale, avait traversé le ciel et disparu au jour précis où mourait l'homme du destin. Et elle caressait comme un talisman cette étoile de cuivre qu'il avait, enfant, dérobée au ciel de la crèche de l'Enfant-Dieu. Elle revenait à ses couronnes que ses autres bambins s'étaient partagées, et ce souvenir d'une espièglerie d'enfant prenait, en son esprit, la grandeur d'une inéluctable prédestination. Un écrivain illustre, visitant à Ajaccio la maison où naquit l'empereur, a tracé ce croquis. Pour moi, l'âme et l'épouvante du lieu, c'est, dans la chambre de Madame Laetitia, un pâle portrait d'elle-même, placé à contre-jour, que je n'avais pas remarqué d'abord, et qui, à l'instant du départ, m'arrêta pour m'effrayer au passage. Dans un ovale dédoré, sous une vitre moisie, un pastel incolore, une tête blême sur fond noir. Elle lui ressemble, à lui. Elle a les mêmes yeux impératifs et les mêmes cheveux plats en mèches collées. Son expression, d'une intensité surprenante, a je ne sais quoi de triste, de hagard, de suppliant. La figure, on ne comprend pas pourquoi, n'est pas restée au milieu du cadre, et l'on dirait une morte, effarée de se trouver dans la nuit, qui aurait mis furtivement la tête au trou de cet obscur ovale pour essayer de regarder à travers la brume du vert terni ce qu'est devenue la gloire de son fils. Dans cette vieille chambre, mangée au vert sur une commode à marbre gris, on voit une crèche de Bethléem dont tous les personnages d'os et de bois sculptés sont poussiéreux, cahotants, écroulés les uns sur les autres. Les trois rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar, ont retrouvé leur couronne, mais l'étoile miraculeuse a disparu. Et rien n'est angoissant comme la vue de ce jouet qui rappelle cette mère et ce fils, cette maman et son petit. Lui, toujours affolée de gloire, elle, toujours inquiète, sévère, clairvoyante et attristée.